Bienvenue à bord de Wagon Livre, bonsoir à toutes et à tous, Yannick Petit avec vous pour un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Nous vous proposerons ce soir des morceaux choisis de la table ronde organisée à la Maison Jules Roy à Vézelay dans le cadre du premier rendez-vous du lire et de l'écrire, RVLE. C'était le dimanche 7 septembre dernier, à Vézelay donc, et l'organisatrice de RVLE, Geneviève Pascot, avait réuni trois écrivains en les invitant à aborder le thème de l'écrivain face à l'histoire. J'animais cette table ronde qui rassemblait Pascal Rose, Pascal Faudrier et Jean Lacoste. Goncourt 1996 pour Le Chasseur Zéro, Pascal Rose est l'auteur d'un récent recueil de nouvelles paru chez Stock et qui a pour titre « Passage de l'amour ». Pascal Faudrier, elle, vous avez pu l'entendre dans notre émission le 20 août dernier, est l'auteur d'un premier roman, « Les Rouges », un roman fresque qui raconte plus de deux siècles du combat de la gauche révolutionnaire française. Quant à Jean Lacoste, il est philosophe et germaniste, il est traducteur, il a édité, entre autres, les œuvres de Nietzsche dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Et surtout, il a édité le journal de Vézelay de l'écrivain Romain Rolland. Notre émission va s'ouvrir par une première intervention sur ce thème de l'écrivain face à l'histoire. C'est Pascal Rose qui explique son rapport d'écrivain avec l'histoire.
À n'en pas douter, l'histoire m'inspire. Et c'est un sujet qui m'attire, et je dirais même que je me sers de l'écriture comme moyen de connaissance de l'histoire, avec un grand H, mais c'est un moyen particulier, le moyen du roman, un moyen particulier de connaissance, c'est-à-dire qu'on part de quelqu'un, et non pas d'événements. Et on ne cherche pas d'emblée, je dirais... Enfin, je suis pas du tout historienne, hein, mais j'imagine que les historiens cherchent des lois générales dans le déroulement de l'histoire. Moi, je cherche comment quelqu'un, comment la vie de quelqu'un peut éclairer cette notion de l'histoire avec un grand H. Non pas comment, je dirais, l'histoire avec un grand H intervient dans la vie de quelqu'un, mais plutôt comment le fait d'essayer de faire vivre quelqu'un avec des phrases les unes à la suite des autres, des chapitres les uns à la suite des autres, la construction d'un récit, comment ça va faire percevoir au lecteur ce que ça peut être que, ben, je ne sais pas, être plongé dans la guerre d'Indochine, par exemple. Donc, c'est un point de vue singulier qui ne dépasse pas peut-être l'horizon d'un regard personnel du personnage, mais je pense que ça permet une approche de l'histoire qui nous parle parce que nous-mêmes on est plongé dans quelque chose qu'on voit à partir de nos deux yeux, puisque nous sommes dans le monde posés quelque part avec deux yeux, nous sommes dans une espèce de centre. C'est comme si nous, du fait que nous sommes un corps physique, c'est comme si on avait l'illusion d'être au centre du monde. Comme ça, on se retourne de chaque côté, mais c'est une illusion. Chacun, on a l'impression d'être au centre du monde. Ben, grosso modo, je pense que le romancier, il travaille à partir de cette illusion.
Alors, si on reprend l'intrigue de Chasseur Zéro, on voit aussi les séquelles de l'histoire sur une jeune fille de 12 ans qui a perdu, donc c'est Laura Carlson. Je pense que certains d'entre vous ont lu... Alors c'est vrai que ce roman date, c'est ce que me disait Pascal Rose tout à l'heure, oui, ça fait presque 20 ans, mais c'est l'histoire d'une fillette de 12 ans qui finalement est dans la quête du père, un père qui a trouvé la mort en avril 45 à bord d'un navire américain
qui a été attaqué par un kamikaze, par un chasseur zéro. Mmh. On remarquera d'ailleurs au passage que zéro est l'anagramme de rose. Hein. Bon, ça avait été... Ah oui, mais ça avait été dit à l'époque, j'ai pas de mérite, ça avait été dit à l'époque, je me rappelle.
On me l'a appris d'ailleurs. Ah bon ? Je l'ai fait absolument inconsciemment.
Et cette petite fille, elle recherche la trace de son père et elle retrouve trace de son père dans un livre d'histoire. C'est une de ses copines qui l'encourage à partir sur la trace du père. Alors, sur fond de guerre d'Algérie, puisque cette petite fille grandit sur fond de guerre d'Algérie, entre une mère qui effectivement est presque démente.
Folle de douleur, disons.
Folle de douleur.
C'est un personnage un peu durassien, la mère.
Et des grands-parents qui ne veulent absolument pas parler de la mort du père de cette petite, qui a des problèmes auditifs.
Oui, oui. Mais vous dites que elle subit les séquelles de l'histoire, mais elle est elle-même dans l'histoire. C'est ça aussi qu'il faut... Je veux dire, la génération qui vient après une guerre, elle est aussi dans l'histoire. Hein. Donc l'histoire avec un grand H, c'est pas forcément l'histoire des grands événements non plus. Hein. Donc, que dire ? En fait, je suis partie, non pas de l'idée de parler de l'histoire en écrivant ce livre. Je suis partie d'un souvenir d'émotion enfantine, de terreur. De terreur, et qui chez moi, de terreur nocturne, ou de terreur que j'ai décidé de matérialiser dans mon livre sous forme d'hallucinations auditives. Donc c'est une enfant qui vit avec des bruits dans sa tête. Et j'ai cherché quels pouvaient être ces bruits. Et dans un premier temps, j'ai pensé à un train. Et évidemment, pensant à un train, j'ai pensé au wagon plombé, etc. Et donc à le mettre dans la Deuxième Guerre mondiale, mais du côté d'une petite Française juive qui partirait en train vers un camp. Et puis c'est un jour, en entendant une émission sur France Culture qui s'appelait Panorama, elle n'existe plus, mais c'était une émission merveilleuse, et j'ai entendu critiquer un livre de Maurice Pinguet qui s'appelle « Essai sur la mort volontaire au Japon ». Et les journalistes ont parlé de l'action des kamikazes pendant la guerre du Pacifique. Et ce que j'ai entendu m'a immédiatement alertée, et je me suis dit « Ma petite fille, elle entend la chute d'un avion, et d'un avion qui vient pour la tuer. » Et donc j'ai orienté, j'ai déchiré tout ce que j'avais écrit et j'ai recommencé en le mettant dans ce contexte-là. Donc c'est aussi pour dire que l'histoire, ça peut parfois être un sujet qui vient grossir, grandir quelque chose qu'on a envie de dire et qui arrive par la bande, quoi. Voilà, c'est complexe.
C'était Pascal Rose au micro de Wagon Livre au cours de l'enregistrement donc de cette table ronde organisée le 7 septembre dernier lors du premier rendez-vous du lire et de l'écrire. C'était à la Maison Jules Roy à Vézelay. On va marquer une première pause musicale avec Patrick Fiori qui va nous interpréter elle. Et puis juste après la pause musicale, vous entendrez Pascal Fautrier prendre la parole à son tour pour nous confier ses réflexions sur le thème de l'écrivain face à l'histoire. Tout de suite, Patrick Fiori, bonne soirée. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. C'est Wagon Livre sur votre radio locale.
Ces clichés démodés dans les rengaines à dessous, partout, faut-il ajouter d'autres rimes à ces millions de poèmes entre nous? C'est du déjà vu, je sais, mille fois rebattu, d'accord, on n'en peut plus de ces histoires, pourtant chacun d'entre nous s'est perdu. Mais passent les gens, le temps fut-il, que nous reste-t-il indélébile? Première et dernière, sœur amante mère, fidèle lumière. Elle, dans les nuits trop sombres, elle, quand tout vacille et s'effondre, elle. Du monde, les hommes jouent à la peur, au pire, au pouvoir à mourir, au hasard à se haïr ou se mentir, au plaisir, les hommes jouent. Les hommes se toisent, rêvent et boivent et s'autorisent. Petits soldats dérisoires, ils se défient, puis se défilent. Les hommes jouent. Ils appellent les tombes et les chants d'horreur. Au milieu des cendres et des douleurs, éclaircir. Et d'autres ciels à venir, pour enfanter plutôt qu'anéantir, et tout reconstruire, tout reconstruire. Et même l'une d'entre elles est la mienne, mon inespérée, ma providentielle. Elle fait que ma vie vaut la peine. Elle. Mon aile.
Patrick Fiori, à l'instant, dans Wagon Livre, votre émission littéraire, chaque mercredi à 21h sur Radion. L'écrivain face à l'histoire, c'était donc le thème de la table ronde qui a rassemblé à la maison Jules Roy à Vézelay le 7 septembre dernier. Trois écrivains, je vous l'ai dit, donc Pascal Rose, Goncourt 1996, Pascal Fautrier et Jean Lacoste. Tout de suite, voici la réflexion de Pascal Fautrier qui signe aux éditions du Seuil depuis avril 2014 Les Rouges, un roman fresque qui raconte plus de deux siècles du combat de la gauche révolutionnaire française. Pascal Fautrier.
D'abord, moi je voudrais dire que je pense que l'écrivain est toujours face à l'histoire. Je pense que dès l'origine de l'écriture, dans le fond, il s'agit de raconter, je sais pas, je pense aux Mésopotamiens ou je pense aux grands textes. De raconter l'histoire des peuples, et d'abord des histoires collectives, mais avec toujours un personnage ou un héros qui est mis en avant dans les récits, un ou plusieurs héros qui est mis en avant, et en général en but à des puissances à la fois terrestres et célestes. Donc à l'origine de l'écriture, il y a à la fois l'histoire, la religion et la singularité de chaque vie humaine. Je crois que c'est l'essence même de l'écriture au-delà de la littérature. Et puis après, si on avance dans le temps, on s'aperçoit que le mot littérature naît au début du XIXe siècle dans un texte de Madame de Staël. Auparavant, on parlait des belles lettres. Il y avait eu, je ne vais pas dans toute l'histoire, mais enfin, il y avait déjà eu des distinctions entre les récits purement historiques, les épopées, et puis d'autres textes relevant des belles lettres. Mais au début du XIXe siècle, ce qui se passe, c'est qu'on a un nouveau donc concept qui apparaît, qui est le concept de littérature, et qui apparaît précisément dans un contexte historique précis qui est celui de la Révolution française. Et dans le fond, toute la littérature moderne, dont le premier héros est Napoléon Bonaparte, qui hante tout le premier romantisme français et toute cette littérature donc qui naît au début du XIXe siècle, toute la problématique de la littérature au sens donc moderne du terme, c'est évidemment l'individu face à l'histoire, c'est-à-dire comment pour chaque vie humaine à la fois s'articule le destin collectif et le destin singulier, mais aussi à partir de la Révolution française, une question qui est liée à la démocratie, à la question de la démocratie, c'est-à-dire pour chacun de revendiquer d'avoir une vie singulière et une vie qui affirme que rien de ce qui est humain ne lui est étranger, c'est-à-dire une vie qui soit en elle-même toutes les vies humaines et en même temps absolument singulière. Donc cette littérature qui naît au début du XIXe siècle, elle est celle-là, elle est celle de l'individu face à l'histoire.
Tu ouvres ton roman Les Rouges aux éditions du Seuil par un extrait du discours d'investiture de François Mitterrand, qui disait, donc le 21 mai 1980, « Je pense à ces millions d'hommes et de femmes de notre peuple qui, deux siècles durant, dans la paix et la guerre, par le travail et par le sang, ont façonné l'histoire de France sans y avoir accès. » Tu parlais de la mémoire. Finalement, « Les Rouges », ce roman fresque, c'est le premier roman de Pascal Fautrier, il faut le dire. C'est un roman où, effectivement, tu reviens sur la mémoire de ceux qui sont la base, que tu appelles la base, ce que le président Hollande appellerait peut-être les cendants, mais tu peux t'exprimer sur les cendants si tu le désires.
Mais je ne t'inquiète pas, Yannick.
Tu sais de quoi il s'agit.
Oui, absolument.
Donc tu as souhaité rendre hommage à la fois à ta famille, à tes ancêtres, bouffeurs de curés, de culture et d'obédience communiste, et aussi rendre hommage à ce peuple de France qui a été oublié. Et tu as bien souligné aussi que la gauche française était dans la nostalgie et que justement parce que cette gauche était enfermée dans la nostalgie, elle ne se trouvait plus d'avenir. T'avais-je bien compris?
Revenons à l'origine. Je remonte dans mon livre à la Révolution française, et c'est pas pour rien. Et je disais à l'instant que donc la littérature au sens du mot littérature donc remonte à cet événement historique. Et que d'autre part, l'existence même de la littérature au sens moderne du terme est liée à la question de la démocratie. Et donc à la question pour chacun de revendiquer une vie singulière et une vie qui a une valeur absolue, ce qui est d'ailleurs en soi une idée qui remonte plus loin dans le temps, qui remonte aux valeurs chrétiennes et même en deçà à la Bible juive. Bon. Cette idée de la démocratie, elle naît, à mon sens, au moment de la Révolution française. Elle a des origines religieuses, mais il s'agit de la singularisation d'une idée religieuse qui veut qu'en effet toute vie est un absolu. Et que donc toute vie, dans le fond, pose la question de ce que c'est que l'humanité. Et c'est dans cet horizon-là que la littérature s'écrit. Donc simplement, en écrivant Les Rouges, je reviens, je dirais, à ce qui est pour moi le moteur même des raisons d'écrire, qui est celle-là, c'est-à-dire d'affirmer que toute vie est un absolu. Et il s'agit donc dans mon livre de rendre hommage à des gens qui sont pas, je dirais, naturellement des héros de la littérature, même si encore une fois toute la littérature moderne, genre Une vie de Maupassant, enfin pour prendre 1000 exemples, il s'agit de ça, il s'agit de donner une valeur absolue et d'inscrire dans le marbre de l'écriture des vies et des vies qui ne sont pas forcément des vies de personnages appartenant aux classes dirigeantes et riches de la société. Il s'agit de ça depuis la Révolution, et il s'agit de ça partout dans la littérature. Bon, c'est ça la littérature moderne. Donc je reviens simplement en quelque sorte aux sources. Et d'autre part, comment dire, je pense que cette démocratie politique qui naît avec la Révolution française, qui a donc des origines spirituelles et religieuses, elle n'est effective que dans la mesure où des gens de peu, comme on dit, et j'aime évidemment pas cette expression, s'en saisissent. C'est-à-dire qu'il n'y a de démocratie que si les gens qui n'ont pas de pouvoir économique et politique dans la société revendiquent la souveraineté populaire et revendiquent la souveraineté politique. C'est ça l'idée de la Révolution française. Bon, Mitterrand rappelait en 81 simplement, comment dire, ce qui est presque oublié aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ce que c'est que la politique. la politique, c'est en effet ça. Le fait que n'importe qui, comme dit un philosophe aujourd'hui qui s'appelle Jacques Rancière, il définit la démocratie comme ça, le fait que n'importe qui puisse se saisir de la puisse revendiquer la souveraineté politique. Bon, c'est ça l'idée majeure de la Révolution française, et c'est aussi une idée littéraire. Et les écrivains, qu'est-ce qu'ils font ? Dans le fond, ils donnent une dignité qui était auparavant simplement conférée aux épopées, aux grands de ce monde. Ils donnent une dignité à n'importe quelle vie humaine à travers les récits. Alors en effet, je m'appuie sur l'histoire de ma famille, donc de Jean de Mailly-la-Ville, qui ont ensuite quitté la Mailly-la-Ville, et on suit toute l'histoire de la gauche et l'histoire de la gauche en effet par les militants de base, donc par le bas et non pas par les dirigeants politiques, pour montrer cela, hein, c'est-à-dire pour montrer que cette démocratie politique, elle a eu un contenu. Parce que des gens de peu, c'est-à-dire des ouvriers, des artisans, donc je commence par les artisans, les ouvriers, etc. C'est un sens politique, tout ça. Bon, je suis un peu l'histoire de la gauche de ce point de vue. Ensuite, des instituteurs, etc. Se sont saisis de la question politique. Alors, ce qui est en panne aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens de peu ne se saisissent plus de la question politique parce qu'ils en sont désespérés. On en est là. Donc, en ce sens, mon livre est bien un livre d'un écrivain face à l'histoire, mais il est aussi, évidemment, il a une portée immédiatement politique, parce qu'il s'agit de dire que cette idée qui est née avec la Révolution française, non seulement elle n'est pas morte, mais que, je veux dire, elle est toujours là. On vit en même temps formellement, on vit sur cette idée que la démocratie, c'est ça. Maintenant, il ne faut pas que ce soit seulement formel. Donc, c'est un appel à chacun pour, en quelque sorte, revendiquer la souveraineté politique.
Alors, en fait, Pascal, tu fais complètement tienne cette citation de Marx qui est dans ton roman. La tradition des générations mortes pèse comme un cercueil sur le cerveau des vivants.
Yannick va absolument me tirer du côté de la mélancolie. Cette phrase vient là parce que quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai eu l'impression d'avoir de porter en moi un héritage qui était celui des histoires qu'on m'avait racontées, de cette histoire politique, et que cet héritage avait été totalement éradiqué, c'est-à-dire que plus personne n'en parlait, et que cette transmission qui se faisait notamment dans les milieux populaires de cette mémoire ouvrière, de cette mémoire populaire, de cette mémoire politique, elle ne se faisait plus. Donc je me suis sentie une sorte de mission, j'hésite pas à le dire, d'avoir à rester situer cette histoire et à lui donner une dignité littéraire dans la grande tradition de la littérature avec un grand L, quoi.
À l'instant, Pascal Fautrier, lors de la table ronde de RVLE le 7 septembre dernier à la Maison Jules Roy à Vézelay, dans le cadre donc des premiers rendez-vous du lire et de l'écrire. Rappelons que le premier roman de Pascal Fautrier, sorti en avril dernier, a pour titre Les Rouges. Il est disponible en librairie aux éditions du Seuil. Nous vous proposerons la suite de l'échange entre ces auteurs sur le thème de l'écrivain face à l'histoire juste après une nouvelle pause musicale. Tout de suite, une nouveauté à bord de Wagon Livre, Souffle de délire par Suarez. Excellente soirée à l'écoute de Radion.
Ne laisse pas passer le vrai moment. Il faut saisir ta chance, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils en pensent. Remplis ta différence, quoi que tu ailles, ou que tu vibres dans tes entrailles. Un brin de dérive, faut pas qu'il faille, quoi que tu vives. Oh oh, un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Jette dans mon ciel des poussières d'argent, caresse ma démence, viens qu'on leur fasse éperdument, qu'on raconte nos chances. Quoi que tu ailles, ou que tu vibres dans tes entrailles, un brin de dérive, faut pas qu'il faille, quoi que tu vives. Oh oh, un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Un souffle de délire,
souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Un souffle de délire, un éclat de rire, des étincelles, c'est ça qui m'inspire. Dans mes entrailles, un souffle de rire. Quoi que tu failles, il faut que tu vives. Dans mes entrailles, un souffle de rire. Quoi que tu failles, il faut que tu vives. Dans tes entrailles, un vent de tes rires. Quoi qu'il pense, quoi qu'il vit. Un souffle de délire.
À l'instant, souffle de délire, c'était Suarez dans votre émission littéraire sur Radion. Je vous ai dit que la table ronde que j'animais le 7 septembre dernier à la Maison Jules Roy à Vézelay, dans le cadre du premier RVLE, Rendez-vous du lire et de l'écrire, rassemblait trois écrivains. Le prix Goncourt 1996, Pascal Rose, Pascal Faudrier, agrégé de lettres, et le philosophe et germaniste Jean Lacoste, spécialiste de l'écrivain Romain Rolland. Je voudrais quand même rappeler que Romain Rolland est né à Clamecy, dans la Nièvre donc, en 1866. Romain Rolland va s'installer à Vézelay en 1938 dans une maison qui est aujourd'hui le musée Zervos, maison qui le verra mourir en décembre 1944. Romain Rolland a été, en 1915, le lauréat du prix Nobel de littérature et il est l'auteur d'œuvres célèbres, citons notamment Jean-Christophe ou le très bourguignon Colas Brugnon. L'écrivain face à l'histoire et l'écrivain dans l'histoire, c'est ce que Jean Lacoste a entre autres voulu souligner. Je rappelle que Jean Lacoste est l'éditeur du journal inédit de Vézelay de Romain Rolland, journal longtemps sous-scellé à la Bibliothèque Nationale, puis décacheté en 2000 et enfin publié aux éditions Bartilla fin 2012. Jean Lacoste à notre micro.
Encore en 1938, à Clamecy, il est accueilli par le Parti communiste qui donne son nom à une installation sportive, une petite plage, avec des descendants de Zéphirin Kalinina. Donc il y a une continuité, mais quand même, puisque vous m'avez gentiment associé au journal de Vézelay, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est la suite, c'est-à-dire l'attitude de Rolland, parce que je vais parler de Rolland, face à l'histoire, justement. Il a été, effectivement, dans les années 30, je dirais un écrivain qui s'est voulu face à l'histoire, c'est-à-dire histoire, le synonyme, c'est la guerre. Et donc c'est un écrivain qui était devant la menace de la guerre et devant le nazisme. Et beaucoup de choses s'expliquent dans son attitude, dans ses positionnements, par la nécessité d'une réaction devant la guerre, devant le nazisme. Dès 1933, il condamnait l'extermination des Juifs, enfin du moins les mesures prises à l'encontre des Juifs en Allemagne. Donc de ce point de vue-là, il y a une logique politique. Ce qui est un peu intéressant, c'est la suite, c'est-à-dire la période de l'occupation qui est décrite dans le journal, parce que je ne sais pas pour quelle raison, enfin si je devine très bien, mais on assiste à un désenchantement. C'est là peut-être certaines affinités avec le livre de Pascal Faudrier, en même temps des grandes différences, un certain désenchantement de Romain Rolland, un repli, des distances prises, notamment parce qu'il constate l'échec en fait de la politique qu'il a suivie, qu'il a approuvée. Je ne reviens pas sur les événements, mais bon, peu à peu, il apprend des procès soviétiques, ensuite le pacte germano-soviétique, toutes sortes de choses qui fait qu'il s'éloigne de la politique. Il s'éloigne de l'histoire, si l'on veut, il s'éloigne de l'engagement. Alors on peut attribuer ça d'un point de vue psychologique à l'âge, à la fatigue, etc. Mais je crois que c'est plus profond que ça. Et en tout cas, c'est intéressant. Je ne dis pas que c'est la position la meilleure, peut-être pendant la période de l'occupation, mais c'est une position intéressante. C'est-à-dire...
Comment ? Le moment était mal choisi.
Pour
s'éloigner de la politique.
Mais oui, mais justement, il y avait un désenchantement dont j'ai donné les raisons et qui faisait qu'il ne sentait plus cette nécessité de la politique. Et ce qui fait que Je ne porte pas de jugement, j'essaie d'expliquer une attitude qui est intéressante. C'est d'ailleurs l'écrivain qui n'est pas face à l'histoire, mais qui se sent dans l'histoire, plongé dans quelque chose de presque cosmique, qui est l'affrontement entre les hommes. Et il y a des pages terribles, en fait, devant les massacres de toute nature qui sont effectués, et un rejet même de, c'est très fort, un rejet de l'humanité comme une sorte d'engeance qui ne cesse qu'à vouloir faire la guerre. Alors je ne dis pas que c'est la véritable solution. La véritable solution, c'était peut-être ceux de l'île de Saint qui partait à Londres pour faire la résistance. Mais ce qui est intéressant, c'est la position qu'il adopte. Lui qui avait été le compagnon de route, lui qui avait été voir Staline, etc.
Et qui avait reçu Thorez aussi.
Oui, bien sûr, qui avait reçu Thorez ici même. Il y a une photo où l'on voit près de la basilique. Voilà, donc ce désenchantement, je ne dis pas que c'était la meilleure des solutions. C'était peut-être un désenchantement ambigu, mais qui est intéressant aussi. Qui est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on pourrait rapprocher aussi de Simone Veil, qui, dans un texte admirable sur l'Iliade et la force et la guerre.
Le poème de la force.
Le poème de la force, merci. Qui est un texte vraiment admirable, montrait cette permanence dans l'humanité du goût de la guerre.
Graisser les godillots, hein.
Oui, mais ça c'est un texte, oui, sur pacifiste. Voilà une attitude qui est également intéressante et qui se fonde aussi sur une longue mémoire. Et encore une fois, il faut aussi prendre en compte parce que vous parliez des différents éléments, l'histoire, la religion, l'individu. Tenir un journal dans ces circonstances était un peu aussi, malgré tout, quand tout le monde s'effondre autour de vous et quand le pays est à l'abandon, un moyen de préserver, malgré les déceptions politiques, un moyen de préserver ce qui fait l'individualité, l'individu, ce qui fait l'intime, ce qui fait qu'un être humain demeure ce qu'il est et a droit lui aussi, comme vous disiez, à la vie. C'est une autre forme presque de résistance dans les temps terribles, dont on a d'autres exemples en Allemagne, par exemple, à l'époque. Donc, voilà un peu ce qu'on peut imaginer à propos de l'écrivain, non pas face à l'histoire dans un affrontement politique qui s'est révélé un échec, mais dans l'histoire, dans une expérience. Il faut relire, je termine, mais il faut relire les pages qu'il consacre à l'arrivée des Allemands à Vézelay, parce qu'il y a à la fois cette individualité, ces liens concrets, où il a le sentiment, en voyant ces colonnes de chars et ces colonnes de prisonniers, de véritables mouvements cosmiques, quelque chose qui, de sorte que, là encore, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, comme je disais, mais il prend un livre de Tagore et puis il se couche. Voilà, en voyant ce spectacle.
Je peux dire un mot? Oui, à propos de Romain Rolland, je vais faire un peu de provocation, puis pareil, je suis impétueux.
Allons mais donc.
Pendant que Romain Rolland était désenchanté et d'ailleurs se faisait ravitailler par des amis de Maréchal Pétain, mais c'est une petite pique contre Romain Rolland que j'aime beaucoup par ailleurs, mais il était très vieux et il y avait des raisons à cela et c'est pas grave. Mais pendant que, voilà, il était dans son bureau, dans son beau bureau de la belle maison que vous pouvez visiter toujours et qui est le musée Zervos aujourd'hui, il y avait des résistants qui étaient dans les maquis alentours et qui, eux, ne pensaient pas que la politique était un échec, puisqu'ils étaient en effet en train de gagner la guerre, heureusement, contre le nazisme. Et qu'heureusement, qu'il y a des gens qui ont repris ce flambeau à ce moment-là, sinon on ne serait pas là. C'est-à-dire qu'on serait sous la botte nazie. Remarquez, aujourd'hui, on est sous la botte allemande, de notre manière. Mais enfin, au moins, on serait pas. Je finis. À propos de Simone Veil, je voudrais dire aussi que ce n'est pas du tout la même position que Romain Rolland, parce que Simone Veil, en 1943, elle est en train de mourir d'anorexie, par ailleurs, ça n'a rien à voir, mais c'est une juive convertie au christianisme, comme vous savez, enfin d'ailleurs pas vraiment complètement conversée jusqu'au bout, puisqu'elle n'est pas baptisée, mais enfin c'est considérée comme une grande mystique chrétienne, et en 1943, elle est en train de réfléchir à ce que pourrait être une vraie constitution politique. Donc elle se situe vraiment, au contraire de Romain Rolland, dans un élan d'espérance. Elle ne désespère pas de l'humanité, Simone Veil, elle pense qu'effectivement un jour on pourrait peut-être vivre sous des régimes qui soient plus justes, et qui soient pas en tout cas ceux du fascisme. Elle est engagée, elle elle fait partie de, elle est engagée par De Gaulle pour réfléchir à la possibilité d'une nouvelle, nouvelle constitution après la guerre. Hein. Donc Simone Veil, elle est au contraire totalement dans l'engagement politique à ce moment-là et elle meurt comme ça.
Jean Lacoste.
Oui, je relève pas finalement l'histoire du ravitaillement. Il était ravitaillé aussi par des Allemands, des officiers allemands. Je trouve qu'il y avait, d'abord, il était lié à la fin, à la résistance. Donc ça, c'est un autre aspect.
Par les communistes, notamment un communiste de Migennes qui a gardé longtemps ses manuscrits et qui était ami de mon grand-père. Donc il était lié aux communistes jusqu'à la fin.
Oui. Non, mais il a jamais. Donc ça, c'est une autre question sur laquelle je ne reviens pas. Mais le rapport avec l'Allemagne, à la fois, on peut pas nier que dès 1933, Romain Rolland, politiquement par son engagement, s'est opposé au nazisme et, comme je disais, a dénoncé les persécutions contre les juifs et contre les démocrates et contre le parti communiste, etc. Et que cet engagement politique, il l'a maintenu contre vents et marées jusqu'à un moment où il a senti un désenchantement en lui-même, qu'on peut expliquer effectivement par l'âge, l'usure, etc. D'ailleurs, je le vois mal à cet âge-là prendre les armes, mais pourquoi pas. Mais quelque chose de peut-être un peu positif, c'est qu'il avait, comment dire, en pleine occupation, il jouait du Beethoven, des musiciens allemands. Je ne sais pas si c'est une forme de provocation ou bien cette idée qu'un jour, la guerre serait terminée et qu'il était possible de se réconcilier. Alors, on peut juger que c'était une idée naïve, peut-être, prématurée, c'est certain, mais qui gardait quelque chose, une humanité, finalement. Et peut-être a-t-il eu raison trop tôt, je ne sais pas. Il a été à l'écart de toute collaboration effective, contrairement à l'immense majorité des écrivains de l'ECOP. Il a gardé à Vézelay, comme ça, dans son beau bureau, comme vous disiez, entre son piano, il a gardé une espèce d'humanité et de dignité qui était sans doute la seule possibilité qu'il avait d'agir. Provocation, je ne sais pas si on est sous la botte allemande, mais il me semble que le propos est un peu excessif, mais il me semble assez intéressant de voir chez lui la tentative pour se dire qu'il y a une autre Allemagne. On ne peut pas quand même totalement unifier les choses. Il avait cette conviction, peut-être prématuré, peut-être naïf, peut-être lié à sa culture intime, musicale, philosophique, littéraire, que derrière les nazis qui occupaient sa maison, etc., il y avait la possibilité d'une autre Allemagne, voilà, et avec laquelle un jour peut-être les épées deviendraient des charrues selon la formule d'Isaïe qu'il emploie. Voilà, je n'assume pas cette position, et d'ailleurs je trouverais ridicule de donner des leçons alors qu'on ne vit pas dans le même contexte humain et intellectuel et politique. Mais je trouve que, puisque le sujet était l'écrivain face à l'histoire, je trouvais qu'il était intéressant de montrer un écrivain qui se tente de se détacher de l'histoire.
Jean Lacoste, éditeur du journal inédit de Vézelay de Romain Rolland, c'était le 7 septembre 2014 à la Maison Jules Roy, à Vézelay, une table ronde, l'écrivain face à l'histoire, qui a suscité quelques tensions, un peu de polémique. L'histoire et l'écrivain face à l'histoire, nous amenant aussi, vous l'aurez compris, sur le terrain de la morale. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion à bord de Wagon Livre. La musique adoucit les mœurs, paraît-il. Alors tout de suite, Christophe Maé, Je veux du bonheur.
Je veux du bonheur, je veux de la joie, qu'on m'éclate le cœur. Mais je t'emmène. Je connais le chemin. Il se monte sans peine et sans chagrin. Moi, dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud. Dis-toi qu'il fait chaud et qu'on fera la peau à l'hiver. Oh non. Des milliers de cœurs résonnent au fond de moi. Peut-être un peu voleur pour ne pas être proie. Je t'emmène. Je connais un sentier. Il se monte sans peine et sans souliers. Dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud qu'hier. Ouais, dis-toi qu'il fait chaud et qu'on fera la peau à l'hiver. Oh non. Personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'entendait. Souris à la vie comme si elle te souriait. Oui, vas-y, danse comme si personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'entendait. Souris à la vie comme si elle te souriait. Je veux voir mes parents longtemps. Pourquoi pas leur parler encore mille ans. Je veux voir pousser les fleurs et mes enfants croiser l'amour à tous les carrefours. Me baigner dans des rivières de prière, ouais. Être béni des grands. Je veux de la joie, de l'amour, de la bonne humeur, ouais. Je veux du bonheur.
Je veux du bonheur, c'était Christophe Mahé sur Radion. Si vous venez de nous rejoindre sur le 90.5 ou via internet sur le www.radion.fr, eh bien vous écoutez Wagon Livre, la seule heure littéraire sur les ondes en Bourgogne. Nous diffusons ce soir, presque dans son intégralité, le fruit des réflexions des trois écrivains que réunissait une table ronde sur le thème de l'écrivain face à l'histoire, table ronde organisée dans le cadre du premier rendez-vous du lire et de l'écrire. C'était le 7 septembre dernier à la Maison Jules Roy à Vézelay. Après avoir été comédienne, Pascale Rose, que vous allez entendre, est venue à l'écriture et en 1996, elle reçoit le prix Goncourt pour son premier roman, Le Chasseur Zéro. Voici tout de suite la réflexion que Pascale Rose nous livre. C'était donc lors de cette table ronde, le 7 septembre dernier, à Vézelay.
Je voudrais essayer de repartir dans la discussion sur ce que c'est que l'acte d'écrire, le travail de l'écrivain en différence au travail de l'historien, du moins tel que je peux le concevoir, et évidemment, on arrive très vite au problème de la morale. D'ailleurs, j'ai l'impression que là, ça, vous avez dévié vers cet axe. Et pour moi, c'est un problème fondamental. Mais justement, la position de l'écrivain, elle permet, comment dire, d'être dans l'opacité de la chose et non pas dans le bien, le mal, il se comporte bien, il se comporte mal, de la façon dont est parti le débat là. J'essaye de donner un petit exemple d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle L'eau rouge, où il s'agit d'une jeune femme pleine de bonnes intentions qui s'en va faire la guerre en Indochine. Elle part dans l'armée, mais elle part comme psychologue. Elle arrive là-bas, il n'y a pas de boulot de psychologue, donc on l'engage pour s'occuper de la bibliothèque, d'une radio, etc. Et finalement, elle se retrouve responsable de ce qu'on appelle le cinéma aux armées, c'est-à-dire qu'avec un petit camion, elle part avec un écran, un technicien, et elle va dans les postes de l'armée française et dans les villages projeter des films. Ça, c'est le contexte. Et puis, le soir, elle rentre à Chaudoc, là où elle est avec l'armée, et elle est chargée de la popote, c'est-à-dire elle fait la cuisine pour tout le monde, et là, elle a à son service un petit Khmer qui a été fait prisonnier, à qui elle apprend à mettre le couvert, et il se trouve que ce petit Khmer est fasciné par elle. C'est une femme qui a des très gros seins, qui tranche parmi les autres femmes qui sont là autour. Et voilà qu'un soir, il va rentrer dans sa chambre pendant qu'elle est en train de se laver. Et il va lui sauter dessus de dos. Elle croit qu'elle va être violée. Elle a très très peur. Elle crie. En fait, il va pas se passer grand chose, mais il va partir en courant. Ensuite de quoi? Elle est affolée. Elle va voir une infirmière. Bref, le type est arrêté et il va y avoir lieu à une exécution sommaire. C'est-à-dire que il a fait quelque chose de mal. On prend pas la peine, si ça avait été un Français, de faire un jugement correct. On le met dans un coin et on l'exécute. Ce que j'ai voulu essayer de dire à l'intérieur de ce livre, c'est que cette jeune femme, elle avait différents possibilité d'arrêter l'exécution. D'ailleurs, au départ, elle ne sait pas que ça va aller jusqu'à une exécution. Elle pense simplement qu'on va peut-être le mettre au mitard ou quelque chose comme ça. Et elle laisse faire. Elle laisse faire par négligence, parce qu'elle a eu peur, parce qu'elle est vexée d'avoir... Il y a dans le livre, à un certain moment, on voit qu'elle est très vexée parce que tout le monde se moque de ses gros seins. Elle va être responsable de la mort de quelqu'un en s'y laissant aller petit à petit sans jamais en prendre vraiment la décision. Je pense que il y a des choses comme ça qui font les événements et c'est très difficile de dire c'est bien, c'est pas bien. On est entre les deux et je crois que il faut retenir son jugement aussi. Et dans ce livre-là, du début jusqu'à la fin, prenant en charge ce qui a été fait par l'armée française, je dis « nous », comme si moi, l'auteur, je me mettais au même niveau qu'eux. C'est-à-dire que je ne porte pas un jugement dans un sens ou dans l'autre. Je suis dans le mouvement et dans l'aveuglement du mouvement. Voilà. Et je pense que c'est une position que l'écrivain peut avoir avec la différence de l'historien.
Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je dirais même que c'est la position que l'écrivain doit avoir. Et donc, on est tout à fait en accord. J'ai pas parlé de morale, moi. Hein. J'ai pas parlé de bien et de mal. J'ai parlé de combat. C'est tout à fait différent.
Jugement de portée sur...
J'ai pas porté de jugement. On peut remettre la machine à l'envers. J'ai pas porté de jugement. Je dis simplement qu'on fait ceci ou cela. C'est tout. Donc, il faut rappeler les choses qui ont été faites. Je rappelais simplement qu'ici, il y a eu des résistants. Il y en a eu 7 qui sont morts au moment du départ de l'armée allemande et qu'on a exposé leur corps à la mairie, là, de Vézelay. Et que, voilà, c'est tout. Je rappelle juste ça. Petit rappel historique, c'est tout. Il y a eu différentes attitudes au même moment. Ici à Vézelay, c'est tout. Alors je porte pas de jugement. Je voudrais terminer là-dessus. Dans les rouges, il s'agit absolument pas d'une histoire idyllique de la gauche radicale. Alors c'est pas la gauche révolutionnaire, c'est la gauche qu'on appelle aujourd'hui la gauche radicale. Mais il s'agit pas d'une histoire idyllique de la gauche radicale qui serait du côté du bien. Il s'agit justement absolument pas de ça. Notamment, j'affronte un des problèmes qui se pose, qui hante la gauche aujourd'hui, qui est la question du stalinisme. Et je l'aborde exactement du stalinisme. Et je l'aborde à partir d'une histoire qui s'est passée dans Lyon et qui a touché mon propre père, qui a été accusé, non pas exclu, mais accusé de complot international contre le Parti communiste français. Et ça s'est passé à Migennes. Je parle donc de cette affaire et je montre précisément, et c'est en effet quelque chose qui est essentiel dans l'acte d'écrire, comment les gens commettent ce qu'on peut appeler néanmoins le mal, c'est-à-dire ce qui aurait donné lieu quelques centaines de kilomètres plus à l'est à mort d'homme. Comment les gens font le mal, en effet, pas à pas, comme dirait Kertész dans son livre sur les camps de concentration. Pas à pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de porter des jugements, mais de montrer comment, avec les meilleures intentions du monde, qui sont précisément celles de vouloir un autre monde, et de sorte de millénarisme, qui est, je le rappelle, d'origine chrétienne, comment, dans ce mouvement-là, on en arrive à commettre le pire. Donc, c'est un des enjeux, c'est un des enjeux, au contraire, de mon livre. Je suis bien d'accord que c'est toute la particularité, toute la singularité de la position d'écrivain face à l'histoire, que de ne pas être dans un surplomb par rapport aux actes qui sont commis, et même par rapport à cette histoire qui a, bon, à Migennes, il y a eu au mois de mai, ou le 15 mai, une réunion où il y a eu 200 personnes autour du livre, et où tous les acteurs de cette histoire étaient réunis, les acteurs ou les héritiers de cet acteur étaient réunis dans une passion incroyable, mais néanmoins personne s'est écharpé, il y a eu beaucoup d'éclats de voix, et en même temps les gens se sont parlé, et le livre la fonction du livre, elle est ni d'instruire des procès, ni de dire qui est bien et qui est mal, mais de dire ce qui a été, et d'essayer de réfléchir sur des pratiques politiques qu'il faut en effet dépasser et sur lesquelles il faut réfléchir. Voilà.
Sais-tu, Pascal, quel était le prénom de la mère de Romain Rolland?
Madeleine.
Ah, tu le savais. Voilà, te voilà réconcilié avec Romain Rolland.
Donc, mais je suis donner... absolument. Attends. Sur Romain Rolland, je voulais juste te dire sur Romain Rolland que je défends constamment. Je suis extrêmement choquée, par exemple, que pour le centenaire de la guerre de 14, le nom de Romain Rolland soit aussi peu prononcé. Parce que, quand même, il faut remonter Romain Rolland, voilà, au-dessus de la mêlée. C'est un des seuls intellectuels français qui s'est opposé à la boucherie de 14. C'est ce qui lui a valu la gloire. Jaurès est mort le 31 juillet, donc le pauvre Jaurès, de toute façon, bon. Et peut-être qu'il aurait voté les crédits de guerre pour des tas de raisons, mais il se serait opposé à partir de 1916 quand même, comme Camelina, il se serait opposé à la guerre, bon. Mais enfin, Romain Rolland, lui, il était bien vivant, il était en Suisse, il a été traité tous les noms, il a été traîné dans la boue. On vivait dans ce pays, sous un régime, parce que dès qu'il y a la guerre, on vit dans des régimes qui sont de toute façon crypto-fascistes, donc on n'avait pas le droit d'exprimer cette opinion. Romain Rolland a été d'un courage sublime, c'était un des seuls intellectuels qui l'ait fait, et j'ai la plus grande admiration pour Romain Rolland, je voudrais le préciser.
Je vais encore choquer peut-être Pascal Fautrier. Il y a un épisode dans le journal qui mais pour moi très, très significatif. C'est probablement en 1944, des escadrilles anglaises qui passent la nuit au-dessus de Vézelay et qui vont bombarder des villes allemandes. Et Rolland dit, il exprime son désarroi en disant, ils passent au-dessus et ils vont aller jeter des bombes sur des Allemands. Je ne sais pas s'ils sont innocents ou pas, mais enfin, c'est des villes allemandes, des gens qui dorment. Quand j'ai lu ça, moi, quand j'ai eu le privilège de lire le roman, c'est pas un roman justement, c'est un journal. Un journal dans l'intimité de Rolland. J'ai été choqué. Je me suis dit, est-ce que l'attitude normale, c'était de dire, chic, les Anglais vont bombarder ces salauds d'Allemands. Et le privilège de l'écrivain, et notamment pas de l'écrivain qui fait l'histoire, mais l'écrivain qui est face à lui-même dans la sincérité relative, toujours relative d'un journal, le grand mérite de l'écrivain, c'est de nous interpeller et de nous choquer et de nous amener à penser. Je me suis dit, peut-être que dans cette pensée... Là, il y a quelque chose d'intéressant, une humanité qui doit être préservée aussi. C'est ça que je voulais dire. Je ne justifiais pas l'espèce de quiétisme politique de Romain Rolland qui s'explique par l'âge, etc. Mais je m'intéressais à un écrivain qui cherche à préserver dans une période. Il cachait ses carnets, ses journaux, par peur d'être arrêté par la milice. Il avait plus peur des miliciens et de Vichy que des Allemands. Bon, ça c'est un fait. Et il les cachait parce qu'il écrivait un journal dans lequel il préservait, dans une époque terrible, un semblant d'humanité. Et c'est ça que je crois très précieux. Il ne s'agit pas de le juger rétrospectivement en disant « Ah, il a prévu Angela Merkel » ou bien « Il s'était illusionné sur l'Allemagne ». Il s'agit de voir que dans une période sombre et ambiguë, quand même, il essayait de préserver ce qui faisait l'intimité, l'individualité, l'humanité pure et simple.
Jean, c'est pas vis-à-vis de moi, vous faites de la provocation, c'est par rapport à la mémoire de Jules Roy, parce que dans les avions qui passaient au-dessus de Vézelay, ben il y avait Jules Roy.
Oui.
On est dans la maison de Jules Roy ici, on est dans la maison qui appartenait à Jules Roy. Non, mais c'était
justement la vallée heureuse. Il faudrait relire la vallée heureuse de Jules Roy avec ses réflexions sur le métier qu'il faisait.
Oui, oui. Non, mais d'accord. Non, mais sur la seconde partie. Non, mais simplement, il faut rappeler pour le public que Jules Roy, il était dans les avions dont Romain Rolland entendait passer et que il allait jeter. Non, il faut quand même dire deux choses parce que il allait jeter en effet des bombes sur les villes allemandes, cette Allemagne nazie. Qui a assassiné 6 millions de juifs par ailleurs, lorsque ces hommes partaient dans les avions pour aller bombarder l'Allemagne, il y en avait que 30% qui revenaient vivants. Donc c'est-à-dire que ces hommes qui prenaient les avions pour aller bombarder l'Allemagne, ils étaient arrêtés par l'aviation allemande à la frontière allemande, et que c'était quand même des hommes qui montaient dans un avion en sachant qu'ils avaient 3 chances sur 10 de revenir vivant à l'issue de la mission. Je veux juste rappeler ça. Que voilà, là,
Pascal,
c'est une autre.
Il faut savoir terminer une grève, disait Maurice Thorez. Il faut savoir terminer une table ronde. On va vous donner la parole. Je rappelle donc Les Rouges, le roman de Pascal Fautrier. C'est au seuil. Pascal Rose, prix Goncourt 96, avec son dernier recueil de nouvelles. C'est chez Stock et c'est Passage de l'amour. Au-dessus de la mêlée qui est réédité chez Rivage et Payot, le texte ressort pour le centenaire et le journal de Vézelay, édité par Jean Lacoste, 1000 pages sur ce qui est aussi la chronique vézelienne. Voilà, formidable.
C'était dans sa quasi-intégralité donc la table ronde qui s'est tenue le 7 septembre dernier à la Maison Jules Roy à Vézelay dans le cadre des premiers rendez-vous du lire et de l'écrire, table ronde qui avait pour thème l'écrivain face à l'histoire et qui effectivement a permis les échanges que vous avez pu entendre ce soir, échanges entre Pascal Rose, Pascal Fautrier et Jean Lacoste. Je vous donne pour ma part rendez-vous mercredi prochain, mercredi 5 novembre, et nous aurons le plaisir d'avoir devant notre micro Roger Fent qui viendra nous présenter son dernier roman intitulé Le Dernier Soldat. C'est un roman récemment paru aux éditions de Boré et qui raconte en fait la plus tragique histoire, ou peut-être une des plus tragiques histoires de la Première Guerre mondiale, puisqu'il s'agit de raconter dans ce roman le destin d'un jeune soldat américain de 23 ans, jeune soldat d'origine allemande qui s'appelle Henri Gunther et qui a trouvé la mort sur le sol français une minute avant la fin du premier conflit mondial. Il est mort à 10h59 alors que l'armistice de 1918 entrait en vigueur à 11h. En tout cas, c'est à découvrir mercredi prochain à partir de 21h avec notre invité Roger Fent. Wagon Livre, c'est fini pour ce soir. Merci donc une fois de plus de nous avoir suivis. Je rappelle que vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de Radion d'ici quelques jours. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir et à mercredi prochain. We'll be right back.